l'écrivain. Cette beauté et cette vérité toute palpitante au cœur des mortels, j'ai voulu d'une plume ailée les rendre captives. La création qui se déroule sous nos yeux tel un panorama, hommes et créatures, êtres et choses, événements, paysages, et les autres mondes également déployés dans notre conscience à travers nos sentiments et nos perceptions, forment avec eux toute une toile mystérieuse, un dédale compliqué. Ils m'ont ensorcelé et j'entends leur voix qui me presse de connaître, de comprendre et de saisir. Leur voix plus douce et plus irrésistible que la voix même des sirènes et génènes. C'est le chant de cette voix que j'ai voulu prêter à mes paroles. J'ai voulu dire le mystère des choses. J'ai voulu sans détour faire parler le soin. Ce qui reste caché, ce qui demeure scellé, ce qui depuis les profondeurs secrètes anime les soleils et les étoiles et les cœurs, c'est cela que j'ai voulu dévoiler, livrer à la pleine lumière du jour. Le labeur des choses, terrestres ou supraterrestres, est une pantomime muette et souvent confuse. Je lui ai prêté la parole et la conscience. Les mots me semblait le plus merveilleux des instruments, l'instrument par excellence. Ils ont juste assez de consistance pour incarner et exprimer, ni trop fluide pour être vague, ni trop compact pour être opaque. Le mot appartient à deux mondes à la fois. Il est du monde matériel et peut ainsi donner forme et substance, mais il est suffisamment immatériel pour rester en contact avec les mondes subtils, forces et vibrations, principes, idées. Il peut matérialiser l'immatériel, incarner ce qui est désincarné, mais il peut surtout donner leur sens aux choses, la signification exacte, enclose dans les formes. Dans mes poèmes lyriques, j'ai voulu mettre à nu les grandes nostalgies du cœur, celui de l'homme et de la nature. J'ai voulu dire ce pourquoi éperdument ils appellent. Pourquoi leurs larmes? Sur une plus large toile, j'ai peint en légendes et en paraboles les mille facettes de la vie, ses humeurs et ses pulsions, ses rares sagesses, sa commune folie. J'ai donné un accent vibrant et une réalité lourde de sens aux épisodes qui forment l'histoire. L'histoire de la conscience dans l'homme et la nature. Les tragédies et les comédies de la vie, je les ai pétries en drames, et il ne m'appartient pas de dire quelle fut votre satisfaction en voyant les formes anciennes répondre si magnifiquement aux besoins et aux exigences du tempérament moderne. En d'innombrables personnages, j'ai façonné les figures, et les caractères des forces vivantes. Mais il existe un instrument plus vaste encore et plus explicite, le roman, qui est peut-être plus agréable à l'esprit scientifique et chercheur de notre âge, car il donne un exemple en même temps qu'il explique. Ainsi, je vous ai raconté la vivante histoire d'individus et de groupements sociaux. J'ai également tenté de vous décrire l'histoire et la vie de l'humanité prise dans son ensemble, cet agrégat massif avec ses mouvements en rond et en spirale, ses ascensions. Mais je savais, je sentais que l'esprit humain ne peut se suffire d'une simple extension ou expansion, la vaste communauté. Ainsi, vous ai-je donné mon épopée. En vérité, ce fut l'œuvre de toute ma vie. Beaucoup d'entre vous, je dois dire, ne l'ont pas comprise et ne la comprennent pas. Un plus grand nombre encore en est resté intimidé. Mais tous, vous avez senti son frémissement magique. Oui, ce fut une tentative désespérée pour déchirer le voile. J'ai varié le thème. Et j'ai varié la manière. J'ai jonglé comme un homme de science consommé avec mes propres mots. Je savais changer leur structure, comment les transmuer pour ainsi dire, comment les faire messager d'un sens nouveau, d'un nouvel accent, d'une valeur nouvelle. Je possédais quelques maîtrises de la période cicéronienne, un peu de l'ampleur de Milton, un peu aussi de cette racinienne tendresse. Je n'étais pas incapable de la simplicité d'un Wordsworth à sa belle époque, et la magie shakespearienne ne me fut pas non plus tout à fait étrangère. Le sublime d'un Valmiki ou la noblesse de Vyasa n'était point sommet si haut que je ne puisse franchir. Et cependant, je n'ai pas atteint mon but. Je ne suis pas satisfait. Je reste malheureux. Car ce sont après tout des rêves que j'ai créés, des rêves que j'ai sommés aux quatre vents. Je sens que je n'ai pas touché la vraie vérité des choses, ni leur âme de beauté. J'ai effleuré seulement leur surface, caressé la plus extérieure robe dont se part la nature. Mais son corps lui-même, mais son être véritable, s'est dérobé à ma poursuite. C'est un voile arachnéen que j'ai tissé autour des membres de la création, si réelle fut sa semblance, si enchanteur fut-il apparemment. Et les moyens, l'instrument lui-même, qu'en un temps j'avais pu croire sans défaut, parfait dans sa nature, pour pénétrer et révéler, pour exprimer, pour revêtir de chair, cet instrument m'a déserté. Un grand silence, un pur mutisme m'a finalement semblé plus proche du cœur des choses. Au milieu de ce flot sans fin. Au milieu de ces changeantes myriades, j'étends mes bras impuissants et tel Faust m'écrit: Où te ferais-je captive, ô nature infinie? Un autre grand poète fut autrefois comparé un ange sans force battant dans le vide en vain ses ailes dorées. Notre espèce tout entière ne vaut pas mieux. À la fin de ma vie, je demande, avec l'ignorance d'un enfant, que veut dire tout cela? Devant quel Dieu nous inclinerons-nous pour déposer notre offrande? À quoi ressemble donc la vision de la Shéhéna? Pourquoi avoir vécu? Pourquoi mourir? Quel est le sens de cette apparition fugitive sur la terre? De tous ces efforts, de toutes ces luttes, de tous ces succès compensés par tant de souffrances, de ces merveilleux espoirs, de ces enthousiasmes triomphants menant vers des abîmes d'inconscience et d'ignorance que rien ne semble pouvoir combler. Et tout cela, ayant pour conclusion inévitable une disparition, une dissolution encore plus mystérieuse que l'apparition, quelque chose qui donne l'impression de l'absurde, d'une mauvaise plaisanterie, aussi macabre qu'inutile.